Bonsoir et bon début de semaine à tous. Les conseillers communaux élus aux élections du 20 décembre 2023 réclament le paiement de leur salaire, les frais de fonctionnement et d'installation. Ils se disent être abandonnés par l'État congolais depuis leur installation officielle. Plusieurs marches et sit-ins ont été organisées par ces derniers pour que leurs revendications soient prises en compte. Le dernier cas en date est celui des conseillers communaux de Kalemi dans la province du Tanganyika. Ces derniers ont été brutalisés vendredi dernier par la police alors qu'ils étaient en sit-in en face du gouvernorat de province pour exiger l'application du télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demandant au gouvernement provincial de prendre en charge, je voulais dire, les conseillers communaux et leur faciliter le cadre de travail. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 25 novembre 2024. Participe au débat de ce soir, Maître Kiatingé. Il est expert en décentralisation. Maître Kiatingé, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Nous avons aussi dans ce débat M. Mirindi. Eric, il est porte-parole des conseillers communaux de Kalemi. M. Mirindi, bonsoir.
Bonsoir, madame Kedli. Écoutez, bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment dans la ville de Kalemi.
Et Christian Moleka, qui est analyste politique. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir à vous, madame. Bonsoir également à mes co-débatteurs et à tous ceux qui nous suivent de partout.
Vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Junior Tizainga Jean-Marie. Avant d'organiser leur élection, il fallait se rassurer que leur rémunération sera garantie. Fabrice Debo, qui est coordonnateur du Parlement d'enfants et jeunes depuis la ville de Kisangani, l'initiative de mettre en place ce cadre est bonne. Cependant, les autorités congolaises n'ont pas la bonne volonté d'accompagner les conseillers communaux dans l'exercice de leurs fonctions. Ils promettent de les accompagner, mais l'effectivité pose problème. Alors, il est important soit de dissoudre ces structures et mobiliser les moyens pour réorganiser les choses. À Kindu, dans la province du Maniema, vous nous suivez sur la 103.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur ISTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, les conseillers communaux de Kalemi dans la province du Tanganyika dénoncent l'impaiement de plusieurs mois de salaire. Ils ont organisé un sit-in vendredi 22 novembre dernier en face ou devant le gouvernorat du Tanganyika. Ils réclament leurs émoluments et l'amélioration des conditions de travail. Arsène Kajourou.
Les marches et les sit-ins des conseillers communaux ne cessent de se multiplier dans les pays. Ces élus se disent être abandonnés à leur triste sort. Le cas le plus récent est celui de vendredi 22 novembre à Kalemi, où une manifestation a été organisée pour dénoncer l'impaiement des salaires de plus de 10 mois. Nous avons tenu à être ici en sitting pour exprimer notre mécontentement parce que ça fait pratiquement 2 mois que le télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur existe. C'est un message officiel adressé au gouverneur de province ici, mais ce télégramme souffre d'application. Le contenu de ce message est officiel. Le gouvernement provincial doit prendre en charge les conseillers communaux de toutes les 3 communes et aussi faciliter le cadre de travail, a déclaré Eric Mirindi, porte-parole des conseillers communaux de Kalemi. La manifestation a été dispersée par la police et certains conseillers ont été molestés avant d'être relâchés, a affirmé le porte-parole des conseillers communaux de Kalemi. Même cas au Sud Kivu, où les conseillers communaux élus de la ville de Bukavu ont également manifesté leur ras-le-bol le mois dernier devant les cabinets du gouverneur de province. À l'affiche de leurs revendications, on pouvait lire les paiements des aérés de 10 mois, mais aussi la tenue des élections de bourgmestre, du conseil urbain et du maire de Bukavu par la CENI. Pour rappel, il y a quelques mois, 80 de 915 conseillers municipaux avaient rencontré le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, à qui ils avaient soumis leurs plaintes sur les conditions de leur travail. Ce dernier les avait rassurés de son accompagnement en vue de solutions urgentes et graduelles.
Merci Arcel Kajourou pour ce reportage. Tous nos efforts pour avoir dans cette émission le ministère de l'Intérieur, même les autorités provinciales du Tanganyika sont restés vains. Alors Eric Mihindi, je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif des conseillers communaux des Kalemie, province du Tanganyika. Comme je l'ai dit dans mon introduction, vous avez manifesté vendredi dernier devant le gouvernorat de province pour réclamer vos émoluments et même réclamer les conditions qu'on puisse vous faciliter par rapport aux conditions de travail. Malheureusement, cette manifestation a été dispersée par la police.
Oui, merci madame pour la parole m'accordée. Je salue une fois pour tout. Je salue encore une fois de plus tous les auditeurs de la radio Kapi. Je suis à l'EMI. Effectivement, en date du 22, c'est-à-dire le vendredi passé, le collectif des conseillers communaux ici a organisé un sit-in en face du gouvernorat des provinces pour exiger de l'application du télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur du gouverneur de province, parce que ce télégramme souffre d'application ici. C'est un télégramme qui existe depuis le 7 septembre 2024, mais ce télégramme n'a jamais connu l'application ici. Ce que nous on voudrait aller dire au gouverneur, c'est entre autres lui dire que nous avons déjà introduit, plutôt nous sommes à 5 demandes d'audience.
Monsieur Mihindi. Allô, monsieur Mihindi. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Mihindi? Je pense qu'on a un souci avec la ligne de Monsieur Mihindi, la réalisation. On va essayer de le rappeler. Je l'ai dit dans cette émission, début de cette émission, que nous avons aussi Maître Gilbert Kiatingé, qui est expert en décentralisation. Maître Kiatingé, alors quelle lecture vous faites de cette situation, les conseillers municipaux, depuis leur installation officielle, ils n'ont jamais touché leur salaire. Le dernier cas en date, c'est celui des manifestations par rapport à leurs revendications, c'est celui de Kalemie, où les conseillers municipaux disent que le VPM de l'Intérieur a envoyé un télégramme. Au gouverneur des provinces pour que ce dernier, pour que le gouvernement provincial puisse prendre en charge ces conseillers municipaux, mais aucune réponse de la part du gouvernement provincial.
Oui, bon, merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir associé à ce débat républicain et qui nous renvoie en fait à la question liée au processus de la décentralisation, dont la mise en œuvre se fait de manière un peu en tâtonnement, comme je peux le dire. Et donc, nous nous sommes réjouis lorsque nous avons appris que le gouvernement avait programmé les élections au niveau des entités territoriales décentralisées, notamment au niveau des communes, parce que, comme vous le savez, au niveau des villes, ce sont les conseillers communaux qui vont élire les conseillers urbains et qui, à leur tour, vont élire les bourgmestres et les bourgmestres adjoints. Donc, nous nous sommes réjouis parce qu'il s'agissait là d'un pas de plus qu'on allait franchir dans l'architecture institutionnelle de notre pays qui repose sur la décentralisation comme mode de gestion des provinces surtout, parce qu'au niveau national, les provinces ne sont pas des entités territoriales décentralisées, mais ce sont des composantes politiques. Et donc, au niveau des provinces, pour booster le développement, pour promouvoir l'apprentissage de la démocratie à la base, en tout cas, c'était une bonne nouvelle d'apprendre que pour certaines villes, eh bien, on allait organiser les élections au niveau des conseillers communaux. Et la question qui se pose aujourd'hui, après ce processus qui a abouti, n'est-ce pas, à l'élection des conseillers communaux, eh bien, il y a la question de la prise en charge de personnages qui ont été élus après avoir dépensé de l'argent, après avoir bâti campagne. Et cette prise en charge, nous nous réjouissons d'abord du télégramme de son Excellence Monsieur le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, parce que il s'agit tout simplement de l'application de la loi. La loi prévoit que les entités territoriales centralisées ont droit à 40% de la part des recettes qui sont rétrocédées par le pouvoir central aux provinces. Donc, lorsque le pouvoir central rétrocède 40% aux provinces, les provinces doivent faire de même vis-à-vis des entités territoriales décentralisées en leur rétrocédant également 40%. Sauf que il faut un édit, évidemment, pour voir la modalité de répartition entre ces entités de ces 40% qui doivent leur être rétrocédés, comme je veux dire. Et donc, c'est tout à fait normal que les conseillers communaux réclament cette part de la rétrocession, mais toute la question de savoir est-ce que le pouvoir central rétrocède effectivement les 40% aux provinces. C'est là la question, parce que les informations que nous avons nous renseignent que ce n'est pas un acquis, et ce n'est pas de manière régulière que les provinces reçoivent leur rétrocession qui n'est même plus de 40%, c'est souvent des montants forfaitaires qui viennent sporadiquement. Et donc, il est tout à fait normal que les conseillers communaux se trouvent en difficulté de percevoir leur part, parce que les provinces elles-mêmes perçoivent difficilement la rétrocession qui vient du pouvoir central. Mais je crois que la lutte des conseillers communaux ne devait pas se limiter à cet aspect financier, à cet aspect de la question, parce que les communes ou les entités territoriales décentralisées n'ont pas comme seule ressource la part de rétrocession du pouvoir central. Il y a aussi des ressources propres. Donc, l'entité territoriale décentralisée, parce que si nous parlons de la commune, bien la commune dispose des ressources propres. Notamment, lorsque l'on célèbre des mariages, il y a des recettes qui sont encaissées. Lorsqu'on établit des actes générateurs, comme les attestations, les différentes attestations de naissance, attestations de célibat, il y a beaucoup d'actes générateurs au niveau des communes. Il faut que, eh bien, il y a des recettes propres que celle-ci peut générer et qui pouvaient aussi servir à soulager tant soit peu le besoin financier des conseillers communaux. Mais je crois que la revendication des conseillers communaux serait la bienvenue si elle allait dans le sens de réclamer le parachèvement du processus électoral, parce que vous le savez.
C'est aussi parmi leurs revendications. Maître Katingé, c'est parmi leurs revendications l'élection des bourgmestres et des vice-bourgmestres.
Voilà. C'est donc lorsqu'on va parachever ce processus d'élection des bourgmestres et des bourgmestres adjoints, qui auront évidemment à nommer deux échevins à chaque commune, eh bien, là, au moins, l'architecture sera déjà complète. Les conseillers communaux pourront exercer leur contrôle sur les bourgmestres élus. Et ceux-ci pourront leur rendre compte de toutes les recettes d'intérêt local, donc les recettes propres de la commune, les recettes qui viendront aussi de la part de la province, et on pourra voir quelle est la part qu'on peut allouer au salaire des conseillers communaux. Donc je crois que la meilleure des revendications, c'est de réclamer d'abord l'achèvement du processus, et puis exercer maintenant le contrôle sur les recettes de la commune. Vous savez que la commune, si vraiment elle fonctionne tel que le législateur l'a prévu, elle a beaucoup de recettes qui peuvent permettre à chaque commune, à chaque entité territoriale centralisée, de se développer. Si vous lisez la loi, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'actes générateurs de recettes qui sont tels que aujourd'hui les conseillers communaux pouvaient être en train de nous aider avec les bourgmestres à développer chaque commune dans chaque ville de ce pays qui a été touchée par les élections municipales passées. Et donc, je soutiens les conseillers communaux dans leur lutte. Je crois que c'est la lutte aussi qui devait être de tout le monde, parce que le développement de ce pays ne partira pas du sommet. Hein, où je me suis rendu compte lorsque je me promène dans les avenues de mon quartier, je vois des nids de poules, des avenues qui sont délabrées. Je me dis, mais quel jour le pouvoir central saura que telle avenue cachée dans tel coin de la commune nécessite un coup de pelle ou un coup de pioche ou un peu de curage de caniveau, tout ça. Donc il y a des choses, des matières qui sont spécifiques à chaque commune qui peuvent être gérées au niveau de la commune s'il y a des recettes. Et que à partir du développement de chaque commune, parce que la province n'a pas d'autre territoire que les communes et les villes. Hein, et donc, si chaque ville, chaque commune se développe, ça va entraîner le développement de chaque province. Et si chaque province se développe à partir de la commune, et c'est toute la République, tout le pays qui va se développer. Et donc, je crois que cette lutte-là est noble. Il faut que les conseillers soient rétablis dans leurs droits et qu'ils puissent nous aider, n'est-ce pas, à promouvoir le développement de notre pays à partir de la base.
La réalisation me signale que Eri Mirindi Eric est en ligne. Vous êtes là, monsieur Mirindi?
Oui, je suis là, madame. J'étais en train de dire que nous avions organisé un sit-in en face du gouvernorat. Et c'est au cours de ces sit-in que le maire de la ville a envoyé les éléments de la police pour nous brutaliser de la manière dont ils nous ont brutalisés. Nous ne réclamons que l'application du télégramme du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui a été signé en date du 7 septembre de cette année. Quand vous lisez ce télégramme, c'est dit que les gouverneurs à travers toute la République doivent nous prendre en charge, d'abord sur le plan financier, assurer la prise en charge de nos émoluments et aussi nous faciliter le cadre du travail. Vous savez que les bourgmestres qui sont là, ils sont nommés et nous également, nous sommes des élus, nous n'avons pas la même source du droit. Donc, à chaque fois, quand nous voulons mener une action de contrôle, ces bourgmestres disent qu'ils n'ont rien.
Décidément, la ligne de M. Mirindi pose problème. M. Mirindi. Bon, la rédaction va essayer de le recontacter. Christian Moulika, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle est votre lecture à vous, hein? Comment vous analysez cette situation?
Ma lecture, elle est double. La première, c'est un problème de planification. C'est depuis 2006 que nous tentons d'organiser l'élection locale et à chaque fois on l'a reporté. Parce qu'il y avait derrière d'autres applications, à la fois en termes de cartographie électorale, pour avoir un électorat qui réponde à ses besoins, mais également aux implications financières, parce qu'il s'agit d'un personnel politique que nous créons et qu'il faudra prendre en charge. Et donc, manifestement, on a eu des problèmes de planification dans les élections pour lesquelles on n'avait pas prévu des mécanismes de mise en œuvre. Vous allez déjà vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'assemblées provinciales qui ne disposent pas encore à ce jour des sièges. C'est récemment que le président est allé inaugurer l'Assemblée provinciale au Katanga. Et donc, si déjà au niveau des provinces, on a eu du mal à installer les provinces dans des bâtiments de qualité, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été construite grâce à l'Union européenne, à combien de plus fortes raisons on a préparé l'installation des assemblées locales, notamment des conseils communaux. Donc, il y a un problème de planification qui se pose, puis il y a un problème de finances publiques. Déjà, les assemblées provinciales elles-mêmes accusent des retards de paiement. Vous prenez l'assemblée provinciale de Kinshasa, ils sont en retard de paiement. Et donc le gouvernement, qui déjà n'applique pas ce que la Constitution pose comme principe, à savoir la retenue à la source, mais applique une rétrocession qui est anticonstitutionnelle, n'est pas régulier dans le paiement de la rétrocession. Et donc il est tout à fait logique qu'à un moment donné, les provinces ne disposant elles-mêmes pas des ressources conséquentes, ne transfèrent pas aux provinces, aux ETD, les 40%. Après, il y a toute une problématique des pratiques politiques. Les provinces ont tendance à faire de la rétention, autant que le gouvernement central parfois fait de la rétention des revenus des provinces. Il faut donc, au niveau des provinces, une grande pédagogie pour expliquer les implications liées à cet État décentralisé qui veut qu'au niveau de la proximité, on laisse les entités locales prendre plus de pouvoir et il n'y a transfert de pouvoir réel que s'il y a également transfert des finances. Donc si au niveau de la pratique politique, les acteurs au niveau de province ne libèrent pas ce que dit aux ETD, eh bien ils vont en quelque sorte étouffer les communes qui déjà ont perdu beaucoup de recettes qui ont été ramenées au niveau de la ville. Les problématiques d'assainissement qui devaient se régler au niveau des communes ont été ramenées au niveau des villes, ce qui fait que nos communes ont moins de pouvoir réel, alors que l'État a voulu avoir un pyramide à trois niveaux où on aurait un développement de proximité porté par les communes. Et puis enfin, cette histoire d'hybridation, vous avez une forme de structure sui generis avec des conseils communaux élus et des bourgmestres nommés. Ce rapport-là n'est pas compatible. À Kinshasa, on a eu des cas où des bourgmestres ont chassé des conseils communaux parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir de contrôle sur eux. Et tant que l'État central ne permettrait pas au processus électoral d'aller jusqu'au bout et donc permettre aux provinces, aux communaux plutôt, d'avoir un peu plus de pouvoir sur les bourgmestres, eh bien ces problèmes de revenus se poseront toujours parce qu'ils n'ont pas les capacités de contrôler au niveau local. Ils ne bénéficient pas des subsides du gouvernement central via les provinces. Et par-dessus tout, ils sortent des campagnes électorales, ça veut dire qu'ils ont dépensé de l'argent pour se faire élire. Quand on connaît comment ça fonctionne au Congo, c'est des personnes qui ont dépensé quelques-uns de leurs ressources pour se faire élire, et ça fait 10 mois qu'ils sont sans ressources, et donc beaucoup s'appauvrissent.
Alors, Christian Moleka, vous avez parlé de planification. Est-ce que, selon vous, la RDC était vraiment prête pour l'organisation des élections des conseillers communaux? Est-ce qu'on était prêt? Le pays était prêt?
Mais c'est depuis 2006 que le pays devait être prêt. Le problème, c'est pas quand nous serons prêts, c'est quand nous voudrions être prêts. C'est depuis 2006 qu'on devait avoir les locales, on l'a reporté, en 2011 on l'a reporté, en 2018 on l'a reporté, en 2023 on l'a appliqué partiellement. Le jour où nous voudrons être prêts, nous planifierons pour être prêts. La Constitution a posé le principe depuis 2006 d'avoir un État à trois niveaux, de donner des pouvoirs au développement local par les ETD. Si nous voulons appliquer nos textes, nous n'avons qu'à nous préparer pour l'appliquer. Si nous ne voulons pas nous préparer, on nous donnerait 50 ans qu'on l'appliquerait à jamais. Le problème, c'est que nous avons une culture politique, une pratique politique qui veut que nous voulons concentrer le pouvoir soit au niveau de province, soit au niveau de l'État central. Déjà, la Constitution a posé le principe de la retenue à la source, le gouvernement central ne l'a jamais appliqué. On a imposé une forme de rétrocession, et pendant même une période, les budgets d'investissement des provinces étaient bloqués à Kinshasa. Il a fallu beaucoup batailler pour le transfert du budget d'investissement aux provinces. Donc, notre problème, c'est cette culture-là de rétention. Nos textes sont très progressifs, mais notre mentalité politique n'est pas à la hauteur des textes constitutionnels.
Il y a cet auditeur, Henri Kasongo, qui nous écrit depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Voilà, il estime qu'il pense que notre pays n'était pas encore prêt pour l'organisation des élections des conseillers communaux. C'est avec précipitation que notre pays avait organisé ces élections, vu que plusieurs institutions de l'État sont impayées à tous les niveaux, notamment les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Ajoutez encore à cela les conseillers communaux, c'était une erreur selon lui. Il fallait se rassurer des ressources financières pour leur prise en charge avant d'envisager leur mise en place.
Je suis de ceux qui pensent qu'on pouvait mieux planifier pour faire les choses. Et d'ailleurs, nous n'étions pas obligés de les avoir en 2023, on pouvait le décaler un peu. Donc tout dépend du calendrier de la CENI. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de grandes démocraties, on a des élections à mi-terme, à mi-mandat. C'est-à-dire on aurait pu faire pour qu'on ait des élections en 2025 ou en 2026 et pas forcément avoir l'alignement que nous avons avec notre calendrier électoral. Donc c'est un problème de planification. On aurait plus mieux planifier, c'est une question de finances publiques, on peut mieux gérer les finances publiques. Si les finances sont au rouge aujourd'hui, on peut trouver d'autres raisons pour justifier le fait que les finances sont au rouge, mais moi je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est... Être prêt veut dire quoi? Est-ce qu'être prêt, il faut attendre 10 ans, il faut attendre 20 ans? C'est depuis 2006 qu'on était censé être prêt, nous sommes en 2024, ça veut dire ça fait pratiquement 22 ans que nous reportons les élections. Le problème, c'est pas d'être comme les gens pensent être prêt, c'est se préparer à organiser, se planifier, se projeter à des échéances réalisables, se préparer les ressources pour les réaliser. Et l'une des grandes faiblesses que nous avons au Congo, c'est la planification. Et c'est pas uniquement pour l'assemblée locale. Sur beaucoup de projets, nous pêchons par déficit de planification.
Est-ce que Eric Mirindiric est en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame, vous comprenez le souci de la connexion.
Décidément, votre ligne pose vraiment des problèmes. Allez-y. Monsieur Mirindiric, on vous écoute. Monsieur Mihindi. Allô, Monsieur Mihindi. On va retenter encore une fois d'appeler Monsieur Mihindi, qui est porte-parole du collectif des conseillers communaux des Kalemie, province du Tanganyika. Avant de le reprendre, on va donner aussi la parole aux nombreuses auditrices et nombreux auditeurs de Radio Capi qui appellent et qui nous écrivent via nos plateformes numériques. On va commencer par le standard pour prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Kananga dans la province du Kasaï central.
C'est Kaikai Kabasele Kalumba depuis Kananga dans la province de Kasaï central. La situation des conseillers communaux est très inquiétante. Moi, je me demande pourquoi organiser des élections municipales si on n'a pas suffisamment de moyens pour payer les conseillers communaux et assurer le fonctionnement régulier de ces conseillers-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, à mon humble avis, c'est la conséquence d'une décentralisation mal préparée. Est-il nécessaire de passer toujours par l'application d'un télégramme d'un VPN pour pouvoir payer les conseils communaux? Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est ainsi que je demande. Et j'en appelle surtout à la prise de conscience des autorités et aussi à des solutions adéquates et durables, car la plupart des conseils communaux vivent dans des conditions très déplorables à travers le pays.
Maître Gébert Kiatingé, cette situation est la conséquence d'une décentralisation mal préparée, selon cet auditeur de Kananga. Maître Kiatingé?
Oh, je ne suis pas très bien, il y a un petit souci de connexion.
Il y a un auditeur qui nous a appelé depuis Kananga. Il estime que cette situation, la situation que nous vivons aujourd'hui avec les conseillers communaux, est la conséquence d'une décentralisation mal préparée.
Oui, merci beaucoup. Je le remercie pour l'intérêt qu'il porte à la décentralisation, mais je dois lui dire que la décentralisation, c'est tout un processus. Ce n'est pas comme un phénomène comme l'éclipse solaire qui apparaît un jour et qui disparaît. C'est quelque chose qui doit prendre du temps dans sa préparation, et donc un processus. Et donc l'initiative d'organiser les élections au niveau des conseillers communaux est une initiative louable. Ça traduit une certaine volonté politique d'aller de l'avant dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation. Sauf que, comme toute autre réforme, il y a des défis à relever. Et dans le cas d'espèce, le défi, c'est la prise en charge financière des conseillers communaux. C'est aussi le parachèvement du processus. Si les deux sont combinés, parce que comme l'a dit mon co-débatteur, eh bien, nous sommes devant une situation un peu confuse avec des conseillers communaux élus qui doivent contrôler des bourgmestres nommés, des bourgmestres qui sont régis par les anciens textes, notamment un décret qui confère au ministre de l'Intérieur le pouvoir de nommer, n'est-ce pas, les bourgmestres. Et donc, il faut parachever le processus, et dès lors que le processus sera parachevé, eh bien, ce sera comme le cas des provinces. Aujourd'hui, même si on peut dire que les députés provinciaux ne sont pas régulièrement payés, mais vous sentez qu'il y a quand même une certaine évolution dans la mise en œuvre de la décentralisation. Les provinces fonctionnent. Tant bien que mal, il y a un jeu démocratique qui se fait à ce niveau-là. Et bientôt, je crois, demain ou aujourd'hui, il y a une conférence de gouverneurs qui va s'organiser à Kalemie. C'est parce que les provinces existent, fonctionnent malgré les défis. Et donc, si on fait la même chose avec les communes, eh bien, comme je vous ai dit, il y a des recettes propres que les communes peuvent générer. Si, évidemment, les conseillers communaux peuvent exercer leur contrôle sur le conseil exécutif communal, c'est-à-dire sur les bourgmestres et les bourgmestres adjoints, eh bien, il y aura des retombées, certainement, des retombées positives qui vont faire en sorte que ça fonctionne tant bien que mal, comme fonctionnent les provinces du reste.
Alors, je vais ajouter une autre...
Voilà pourquoi nous...
Je vais ajouter une autre réaction de Jadot qui nous écrit des puis la ville de Bukavu, au sud Kivu, à son, bon, selon lui, il pense que le télégramme du VPM de l'intérieur est venu mettre en conflit ces nouveaux élus et les gouverneurs de provinces, en quoi les provinces devraient les prendre en charge alors que dès le départ, ils n'étaient pas budgétisés par les provinces.
Mais non, je pense qu'il n'y a pas de conflit. Le télégramme de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est venu rappeler les termes de la loi, parce que la loi dit que les provinces doivent rétrocéder 40% de leur part de recettes à caractère national, qu'ils reçoivent aussi du pouvoir central. Donc, si il y a un télégramme qui demande aux provinces de prendre la charge des députés provinciaux, les conseillers communaux, c'est tout à fait normal, parce qu'on suppose que les provinces reçoivent leur part de la rétrocession du pouvoir central. Et donc, elles doivent également répercuter 40% sur les conseillers, enfin, sur les communes, sur les entités territoriales décentralisées de leur ressort. Et donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'insiste sur le fait que les 40%, ce n'est qu'une part des recettes des entités territoriales décentralisées. On devrait mettre l'accent sur les ressources propres qui sont aussi nombreuses. Il y a par exemple des communes qui peuvent créer des marchés, des communes qui perçoivent, comme je l'ai dit, beaucoup de recettes sur les mariages, sur les actes de naissance, sur les actes de différentes sortes. Et donc, toutes ces recettes, plus l'impôt notamment, la loi a prévu l'impôt personnel minimum. Si vous prenez une commune de 100 000, de 500 000 personnes, si chaque personne paye $1, vous voyez ce que ça donne déjà. $1 comme impôt personnel minimum, parce que c'est légal. Il y a d'autres taxes et impôts qui peuvent, comme la patente, qui peut revenir à la commune. Et donc, il y a beaucoup trop de recettes qui, si elles sont bien canalisées, s'il n'y a pas de coulage, eh bien, peuvent renflouer la caisse ou les caisses des différentes communes et permettre à celles-ci de fonctionner. Merci. Et de s'occuper non seulement des dépenses d'investissement, mais aussi de la rémunération de son personnel. N'oubliez pas que la loi a prévu qu'il y aura aussi une fonction publique au niveau de chaque ville, une fonction publique locale qui dépend seulement de la ville ou de la commune, selon le cas, et que donc, il y a le personnel qu'il faudra payer. Mais il y a aussi des initiatives qui peuvent être entreprises à ce niveau-là pour générer des recettes, notamment, par exemple, la création des aires de jeux, des centres culturels, la création, la prise de participation dans les entreprises. Une commune peut avoir des parts dans une grande entreprise. Et il y a beaucoup, beaucoup trop de choses que la loi a prévues. Ils sont tels que, si vous allez dans des pays qui ont vraiment mis en application la décentralisation, vous allez trouver des communes qui gèrent des milliards de dollars.
Merci.
À partir de la gestion efficace des matières, la compétence locale.
Merci, maître Kiatingi. Après le Kasaï central, on va se rendre dans la province de la Tchopo pour écouter cet autre auditeur.
Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. Cette situation des conseillers communaux illustre la conséquence d'une politique populiste visant à impressionner la communauté internationale en appliquant une disposition constitutionnelle longtemps ignorée sans tenir compte des réalités économiques et budgétaires du pays. L'absence de prévoyance budgétaire pour financer les élections municipales montre que le précédent régime n'a pas voulu assumer cette charge, anticipant l'incapacité du budget à soutenir ces institutions. Aujourd'hui, le gouvernement doit se responsabiliser en prenant en charge les conseillers communaux plutôt que de les laisser se perdre dans des revendications incessantes. Le législateur, quant à lui, doit impérativement tenir compte des réalités nationales et éviter de se plier à des injonctions politiques qui ignorent ses contraintes.
Christian Moleka.
Je commencerai par son dernier point. Je crois que le législateur n'ignore pas les réalités du pays. Le législateur a d'ailleurs bien compris les enjeux du Congo. On ne peut pas diriger le Congo à partir d'un seul point qui est Kinshasa. Sinon, on ne fera jamais des routes à Isangi, là où il est. Si on veut diriger le Congo, il faut créer plusieurs points, plusieurs centres d'impulsion pour que le gouvernement central fasse des routes, le gouvernement de la Tchopo fasse des routes d'intérêt provincial, le maire de la ville où il est apporte son élément de développement, la commune où il est apporte l'élément de développement, et c'est l'ensemble qui fait le développement. C'est là l'architecture qui a été prévue. Avoir plusieurs niveaux de développement qui va du gouvernement central jusqu'au niveau de chefferie. Parce qu'on parle des ETD, il faut dire que c'est la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Donc, cette architecture-là demandera une planification, demandera une bonne allocation des ressources, et là où nous pêchons en tant que Congolais, c'est notre capacité à planifier, à projeter et à organiser les choses. Donc c'est vraiment pas un problème législateur qui pour moi était très progressiste, c'est un problème de culture politique, de l'acteur politique qui doit s'élever au niveau de la loi et non pas rabaisser la loi au niveau de l'homme politique congolais. Après, sa première partie de la question, je comprends sa première partie de la question. L'État congolais qui a, je ne parlais pas du populisme, qui n'a pas très bien planifié, qui n'a peut-être pas pris en compte les raisons pour lesquelles, lors des processus antérieurs, on a longuement reporté, a cru pouvoir organiser ces scrutins-là. On l'a vu déjà. On a eu des problèmes pour l'appliquer sur l'ensemble de la République. On l'a résumé dans le chef des provinces. Et donc, dès l'instant où on l'avait résumé uniquement au chef des provinces, on l'avait biaisé sa mise en œuvre. Ensuite, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la planification n'était pas assez bonne et qu'on aurait pu, de mon point de vue, pousser d'ici à 2 ans pour qu'on puisse mieux organiser les choses. Mais bon, au Congo, on aime bien faire paraître erreur. On y va d'abord. Et puis, en avançant, on va tenter de s'améliorer. Ce n'est pas la première réforme dont on met en œuvre dans ces conditions-là. Nous avons nos faiblesses naturelles qu'il nous faut apprendre à dépasser, à savoir mieux planifier les choses, les réaliser avec efficacité. Ça, c'est un problème de management, c'est un problème de leadership. Et fondamentalement, c'est un problème de culture politique qu'il faut améliorer et pas un problème de texte.
Alors, il y a un auditeur de Kisangani et Fabrice Debo qui pense que s'il n'y a pas des moyens ou il n'y a pas de moyens financiers pour payer ses conseillers communaux, il faut carrément annuler leur élection. Est-ce que vous pensez que c'est possible, c'est faisable?
Non, mais c'est pas possible. Comment on va annuler les élections des gens qui portent la légitimité populaire? On va les annuler comment? Par décret présidentiel, par ordonnance présidentielle ou par décret du Premier ministre? Ça ne peut pas se faire. Il faut continuer à avancer. On a lancé le processus de manière braquevalente. On va continuer comme ça. Il faut parachever le processus et faire permettre à ce que les Boumès soient élus et pousser les conseillers municipaux à exercer un contrôle sur les Boumès, quitte à ce que le management qui sera élu, en espérant qu'ils vont voter des personnes de qualité, permettent d'impulser le développement local, de créer des ressources propres au niveau local, et ensuite que le gouvernement central, je n'aime pas parler de ça, mais la rétrocession, transfère aux provinces de manière régulière le subside dit aux ETD et aux provinces, et que les provinces eux-mêmes transfèrent la quotité dit aux ETD. Donc il y a ces différentes étapes à réunir, mais on ne peut pas à ce stade être trop pédalé, on est appelé à aller vers l'avant.
Est-ce que M. Mihindi, merci Christian Moleka, réalisation, est-ce que M. Mihindi est en ligne? Alors on a perdu M. Mihindi, on va continuer, on espère vraiment qu'on va l'avoir dans cette émission. Merveille Mbanga pense que l'État congolais est comme un parent qui est incapable de nourrir 4 enfants et fait appel à 10 autres enfants du village pour tous vivre ensemble. Alors il nous écrit depuis Guémena, voilà. On va apprendre ce dernier auditeur qui est en ligne, qui appelle auditeur qui est à Kinshasa, voilà. On va l'écouter.
Ber Moutinaka Mouabou, depuis la ville province de Kinshasa dans la commune de Ngaliema. La non prise en charge de ses conseillers municipaux prouve à quel point l'État congolais souffre du manque d'anticipation des événements. Et même s'il faut saluer la volonté manifeste de respecter les textes en organisant bien sûr les élections jusqu'au niveau local, il y a cependant lieu de décrier la légèreté avec laquelle cette situation est traitée par les instances compétentes.
Maître Kaltigué, on revient vers vous. Maître Katsingé, décidément, les lignes téléphoniques nous posent des sérieux problèmes aujourd'hui, peut-être à cause de la grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Maître Katsingé, vous êtes là?
Je suis là, je viens de reprendre le contrôle de la ligne.
Alors, est-ce que vous avez suivi cet auditeur de Kinshasa?
Pas du tout, la ligne était déjà partie. Je n'ai pas réussi à capter son message.
Alors lui, il pense que le gouvernement congolais souffre d'un manque d'anticipation des événements. Il décrit cependant la légèreté avec laquelle ce dossier est traité, parce que ça fait plusieurs mois que ces conseillers communaux manifestent, font des sit-ins. Ils ont même rencontré le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui avait promis, qui les avait rassurés, qui a promis de les accompagner, de trouver des solutions. Ben, 10 mois sans être payés, c'est des gens qui ont des familles à nourrir, c'est des gens qui doivent vivre. Alors, il estime que cette question est prise avec beaucoup de légèreté.
Bien, tout ce que nous pouvons souhaiter en tant qu'experts, c'est que le gouvernement prenne à bras-le-corps ce problème, parce que c'est la Constitution qui a institué les entités territoriales décentralisées, parce que en 2006, lorsque nous avons voté pour cette Constitution à référendum, eh bien, on nous a appris que pour développer notre pays, nous avons besoin non seulement des provinces, mais aussi des entités territoriales décentralisées, et que donc le développement de ce pays partira de la base. Et donc si le pouvoir en place a le souci vraiment de développer ce pays, eh bien il faut tenir compte des revendications des conseillers communaux et, comme je l'ai dit, parachever le processus électoral jusqu'à ce que nous puissions avoir des bourgmestres élus, des maires de villes élus, et donc des conseils communaux et des conseils municipaux que nous avons déjà, qui fonctionnent très bien et qui s'occupent de ce qu'ils doivent faire, notamment le contrôle des pouvoirs exécutifs au niveau de chaque entité territoriale centralisée.
Mais ils ne fonctionnent pas très bien, parce qu'ils se plaignent, Maître Katsingé, les conseillers communaux se plaignent. Vous dites qu'ils fonctionnent très bien?
Non, je dis qu'il faut que le pouvoir s'implique pour assurer un bon fonctionnement à ces organes qui sont très très capitales pour le développement de notre pays et pour l'apprentissage de la démocratie à la base. Donc nous croyons que ce sont des défis. Les provinces ont commencé de la même manière et fonctionnent presque de la même manière. Vous avez des députés provinciaux qui ont parfois des arriérés de 5, 6 à 10 mois, mais ça n'empêche pas aux provinces de fonctionner. Il faut donc que absolument on parachève le processus, que les organes soient les organes issus des élections soient mis en place, et qu'il y ait quand même des minimums à partir des ressources locales, des fonds propres, que les conseillers puissent recevoir des minimums en attendant qu'ils continuent leur lutte au niveau des provinces pour décrocher les 40% qui doivent venir des gouvernements provinciaux pour appuyer ces provinces-là. Mais évidemment, le problème est un peu compliqué parce qu'il part du sommet à la base. Au niveau des provinces, j'ai appris que même là-bas, la rétrocession n'est pas régulière, et donc c'est tout à fait normal. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Au niveau des communes, il doit y avoir les mêmes problèmes de dysfonctionnement. Nous souhaitons donc que le gouvernement prenne ces choses au sérieux, et j'espère qu'au niveau de la conférence des gouverneurs qui va se tenir à Kalemi, on va essayer d'examiner sérieusement cette question. Les provinces vont se concerter et harmoniser leur point de vue sur cette question avec le gouvernement central, et qu'il va en sortir des décisions qui vont permettre au peuple congolais d'espérer un devenir collectif meilleur. Voilà tout ce que nous pouvons dire en tant qu'experts.
Merci, monsieur l'expert. Jean-Pierre Matungulu, si l'État congolais paraît être incapable de répondre à tous les besoins de la population, pourquoi organiser les élections au niveau local? Est-ce pour faire souffrir les conseillers? C'est depuis longtemps qu'ils revendiquent leurs droits. Le gouvernement est resté silencieux. Il ne dit rien. On a... Notre gouvernement, je pense que c'est ce que vous voulez dire, a encore un grand problème. Christian Moleka, qu'est-ce que ces conseillers communaux devraient faire? Continuer à manifester, faire des sit-ins pour être entendus, ou ils doivent garder leur mal en patience le temps que tout puisse se stabiliser.
Bon, je crois qu'ils doivent maintenir la pression sur à la fois sur le gouvernement central et sur les provinces pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Vous avez un gouvernement qui joue à la montre. Hein. Nous sommes pratiquement en fin d'exercice budgétaire. Bientôt, nous serons au mois de décembre. Et donc, probablement, certaines questions seront ramenées au budget 2025. En même temps, un gouvernement qui joue aux politiques budgétaires en freinant les dépenses publiques. Et donc, dans ces contextes-là, ils ne sont pas les mieux lotis. Donc, s'il ne faut pas de la pression et du lobbying vis-à-vis du gouvernement provincial et du gouvernement central, probablement qu'il sera ramené en mars 2025, le temps que le budget 2025 soit mis en exécution. Ils ne peuvent que faire le lobbying ou en même temps continuer à demander que les élections, que le processus soit parachevé, que les Bougoumens soient élus et qu'à ce moment-là, qu'ils puissent exercer un contrôle sur base des ressources locales. Et là, probablement, ils pourront commencer à être servis par la commune en attendant que les subsides de l'État central les rejoignent.
Merci, question Molika. Il y a Joël qui nous écrit depuis Matadi au Congo central. Il demande aux conseillers communaux de prendre leur mal en patience. Merci à vous tous qui nous suivez depuis la page Facebook de Radio Okapi, la chaîne YouTube et même le compte X de Radio Okapi. Vous avez été très très nombreux, vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Maître Kieltinge, votre conclusion en 30 secondes.
Et ma conclusion, c'est de demander aux conseillers communaux de tenir ferme. Nous avons besoin d'eux pour développer nos communes. Eh bien, ils doivent continuer à revendiquer leurs droits pour que non seulement le processus soit achevé, mais aussi qu'ils soient placés dans des conditions matérielles qui leur permettent d'exercer à toute indépendance leur mission de pouvoir législatif local. Voilà.
Merci Maître Kieltinge, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba, Sel Kajuhu et John Chiboboy qui ont réalisé ce magazine. Martin Sibujangwela a supervisé. Clément Chimanga et Hervé Voka étaient derrière les caméras. Présentation et coordination qu'elle écoutait. Merci également à Mimi Kinou qui est à la mise en onde. On n'oublie pas Debs Vita qui l'a assisté, non? Ouais. À qui on souhaite également bon anniversaire, Debs Vita. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.